Radio Kapi.
Lancement hier à Kinshasa de la Foire internationale des entrepreneurs organisée par l'ASBEL Crédassure Group, appuyée par le président du Sénat. Son but notamment, renforcer les relations entre la RDC et la Belgique et favoriser le climat des affaires. Au moins 22 personnes mortes dans 170 cas d'accidents de route à Bénouville entre janvier et octobre 2021, statistiques livrées hier par le commandant urbain de la police de circulation routière à Béni. Il évoque notamment l'ignorance du code de la route, vous l'entendrez. Le gouverneur intérimaire de la Tchopo donne 48 heures à l'intersyndicale des enseignants pour une éventuelle reprise des cours. C'est une mesure conservatoire en attendant la fin des négociations entre le banc syndical et le gouvernement, a dit Maurice Abibou Sakapela. Il est notre invité ce matin. Madame, Messieurs, bonjour. Le Palais du Peuple a vibré hier au rythme de la Foire internationale des entrepreneurs. Elle a été lancée par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, en présence du Premier ministre Sama Lukonde. Étaient aussi présents les membres des bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale, la plupart des membres du gouvernement et la délégation des parlementaires belges en séjour à Kinshasa, organisée par l'ASBEL Crédassure Group, appuyée par le président du Sénat. Cette foire a réuni plusieurs entrepreneurs de la RDC et de la Belgique. Elle vise notamment à renforcer les relations entre les deux pays, favoriser le climat des affaires et accompagner l'émergence de la classe moyenne, a souligné Modeste Bahati Lukwebo. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Ce forum a pour objectif d'accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise, de booster et d'encourager l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, de faciliter l'accès au financement, à l'emploi aux demandeurs, à la formation et au renforcement des capacités, aux soins de santé, de renforcer la collaboration belgo-congolaise, de valoriser l'économie agricole et transfrontalière. Ces objectifs sont en phase avec deux de sept propositions clés de la réforme du Sénat, à savoir la redynamisation de la diplomatie parlementaire du Sénat et la mise en place du mécénat scientifique et des œuvres sociales.
Représentant la partie belge à cette foire, André Flao, ministre d'État, a émis le vœu de voir le partenariat entre les parlements de la Belgique et de la RDC être revitalisé par un pragmatisme afin de rapprocher les continents européens et africains. À l'issue de cette foire, les recommandations seront adressées au gouvernement des deux pays afin de nourrir les relations d'affaires, indiquent les organisateurs. Entre-temps, une délégation des sénateurs séjourne à Kananga cette semaine pour une mission d'un mois environ. Elle est là pour enquêter sur la gestion dans les régies financières et d'autres services qui gèrent l'argent du trésor public. Membre de cette délégation, le sénateur Laurie Lilongo explique que la session actuelle étant budgétaire, le Parlement veut examiner la traçabilité de l'argent pour booster le prochain budget. Le sénateur Laurie Lilongo le dit au micro de François Kadima.
On n'est pas là seulement pour vérifier, enquêter sur la traçabilité, mais aussi pour chercher à booster le budget de l'État. C'est une mission qui s'effectue à travers toutes les provinces de notre pays et c'est à l'issue d'un travail des titans qui a été abattu au niveau du Sénat. On a eu des auditions de ministères et des responsables des régies financières et à l'issue de cette évaluation, le Sénat a décidé que nous puissions descendre sur le terrain afin que nous puissions également contrôler et enquêter certaines situations au niveau des régies et d'autres services qui s'occupent de la gestion des fonds de l'État. Nous ne sommes pas venus contrôler, mais nous voulons aussi connaître les performances, les contre-performances ainsi que certaines questions pour qui regardent la bonne gestion de fonds de l'État.
Rendons-nous au Nord Kivu. 22 personnes ont été tuées dans 170 cas d'accidents de circulation routière enregistrés entre janvier et octobre dernier dans la ville de Béni. Le commandant urbain de la police de circulation routière l'a révélé hier. Pour le commissaire supérieur Célestin Lembi, la plupart de ces accidents ont une cause humaine. Il évoque notamment l'ignorance du code de la route. Il dit regretter de ne pas pouvoir organiser pour le moment des séances de formation à l'intention des conducteurs de Bénéville. Écoutez le commissaire supérieur Célestin Lembi au micro de Guylaine Kassassia.
La situation de la sécurité routière de Bénéville n'est pas bonne. D'autant plus nous avons connu beaucoup d'accidents cette année par rapport à l'année qui venait de s'écouler. On avait totalisé 115 accidents pour toute l'année. Mais déjà ici, depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'octobre dernier, on a déjà totalisé 170 cas d'accidents. L'augmentation des cas d'accidents est due surtout au mépris du code de la route. Jusqu'à l'on n'a pas eu le go de la hiérarchie. On avait déjà introduit cette demande auprès de la hiérarchie. La hiérarchie nous répondait favorablement. Nous sommes prêts pour pouvoir faire la sensibilisation afin que nous puissions mettre tous les comités des engins roulants en page. Parmi ces cas, nous avons déjà enregistré 22 morts. C'est vraiment beaucoup. La route, au lieu que ça puisse être une voie de développement, ça consomme une voie pour pouvoir faire tuer les gens. Les conducteurs des agents roulants, ils doivent sauvegarder la vie des gens en roulant à la vitesse qui est recommandée par le code de la route. Surtout en pleine agglomération, ils ne doivent pas dépasser 40 km à l'heure.
Restons à Beni, cette fois pour parler santé. Les cas contacts de la maladie à virus Ebola doivent se faire vacciner pour couper la chaîne de contamination. Exhortation du maire de Beni le jeudi, lors de la sortie des deux personnes guéries de cette maladie du centre de traitement Ebola de Beni. Il invite toute la population locale à s'approprier la lutte contre Ebola en respectant les mesures sanitaires telles que recommandées par les professionnels de la santé. Écoutez à ce sujet le commissaire supérieur principal Narcisse Mouté Bakachalé, dans ses propos recueillis par Marc Marofimbo.
Je me dois de remercier les heureux guéris qui ont accepté de venir en temps aux soins. Voilà pourquoi ils sortent aujourd'hui vainqueurs. J'invite donc à tout le monde de continuer à pratiquer les mesures d'hygiène telles que nous conseillent les experts de la santé. Et surtout, orienter tous les malades à l'hôpital car venir tôt aux soins, c'est augmenter la chance de guérir. En outre, j'encourage les contacts à se faire vacciner pour éliminer la chaîne de transmission. J'exhorte à tout le monde de s'approprier cette riposte communautaire, surtout que nous sommes dans un combat d'ordre sanitaire où chacun de nous doit apporter sa contribution pour vaincre cette maladie à virus Ebola.
Notons que les sites disponibles de vaccination à Bénéville, c'est à l'hôpital général de référence où se trouve le centre de traitement Ebola et aussi le centre hospitalier Karl Becker dans le quartier Matongé à Mabakanga. Direction le Congo central. Le sous-bureau de l'OMS à Matadi a fait un don hier en kit des préventions et contrôles de l'infection COVID-19 à certaines institutions considérées comme étant des sites communautaires. Ces intrants ont été déposés tour à tour à la mosquée générale de Matadi et au parquet général près la cour d'appel du Congo central. Un reportage de Nana Plurish Mambou.
Ces kits de prévention et contrôle de l'infection communautaire dotés à la mosquée générale des Matadi et au parquet général près la cour d'appel du Congo central sont constitués essentiellement de deux grands réservoirs d'eau, de 5 cartons de gel hydroalcoolique et de 5 cartons de savon liquide pour le lavage de mains dans ces milieux qui reçoivent un afflux de personnes. Pour le nettoyage des surfaces, l'OMS a disponibilisé des brosses, des bottes, des poubelles de 100 litres, des raclettes, d'un nombre suffisant de seaux contenant du savon en poudre pour ne citer que cela. Pour la consultante chargée de la PCI à l'OMS Matadi, cette dotation permet de contrer l'élan de la contamination COVID-19 en milieu communautaire. Docteur Ritiala.
Vous savez que dans notre pays ou au travers le monde déjà, la transmission de l'infection à COVID-19 est le plus communautaire. C'est dans la communauté. C'est ainsi que nous avons choisi certains sites communautaires où il y a une grande fréquentation de la population pour pouvoir doter ces kits. C'est vrai qu'il y a plusieurs sites. Ça peut être le marché, le stade, les églises, les écoles.
Pour la ville de Matadi, 10 écoles et 10 églises ainsi que quelques sites communautaires sont concernés par cette dotation de l'OMS. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
À Bandundouville, les enseignants du secteur public ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève déclenché depuis le 4 octobre dernier. Cette décision a été prise mercredi au cours d'une assemblée générale extraordinaire. Selon le président du syndicat urbain des enseignants de Bandundu, cette grève va se poursuivre jusqu'à ce que les solutions soient trouvées au pourparlers de Kisantu ou au Congo central. Entre-temps, les élèves se disent inquiets et demandent l'intervention du gouvernement. Plus de détails avec Irène Boma.
Selon Fitila Mbeyi, président du banc syndical urbain des enseignants de Bandundu, les enseignants de cette ville ne reprendront le chemin de l'école qu'après la signature du protocole d'accord entre le gouvernement congolais et le banc syndical Ambouela-Lode. En attendant, la grève amorcée depuis près d'un mois reste maintenue, a-t-il martelé.
Les enseignants ont décidé que la grève ne sera pas suspendue jusqu'à nouvel ordre. Nous attendons les assises de Mbouela aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé solution. La grève continue jusqu'à nouvel ordre.
Et du côté des élèves des écoles publiques de Bandundu, certains d'entre eux se disent mécontents et s'expriment en ces mots.
Vraiment, je suis désolée. Les amis du privé étudient, nous, on n'étudie pas parce que nos enseignants sont en grève. J'ai envie de demander à papa de m'inscrire dans une école privée, mais il n'aura pas assez de moyens.
Nous partons à l'école, on rentre pour ça d'étudier. Les enseignants ne viennent pas. Ceux qui ont présent ne nous enseignent pas. Ils disent seulement qu'ils vont enseigner après. Alors, on ne sait pas quel notre sort.
Je suis fatiguée de rester à la maison. Je vais aller à l'école. Mon éducation, c'est mon droit.
Ces élèves appellent le gouvernement congolais à vite résoudre les revendications de leurs enseignants afin que leur éducation soit assurée. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Province de la Tchopo, les agents de la division provinciale des mines se plaignent du manque de moyens financiers pour scolariser leurs enfants, ceci à cause de la non-rétrocession de leurs primes dites de la DGRAD. Toujours selon eux, sur instruction du ministre des Finances Nicolas Kazadi, il leur a été demandé d'ouvrir des comptes bancaires individuels pour le virement de leurs primes, chose déjà faite, mais ils s'étonnent qu'environ 4 mois après, leurs comptes n'ont pas été alimentés. Ils interpellent les autorités compétentes. L'un d'eux explique la situation au micro de Jacques Moukonkolé.
À un certain moment, nous avons reçu une correspondance venant du ministère national des Finances où on a instruit à tous les services d'assiette de pouvoir procéder à l'ouverture des comptes bancaires pour la rétrocession de la prime de Gérard. Et à notre niveau, on a choisi la banque Equitube BCDC et on a ouvert nos différents comptes bancaires là-bas. Et depuis au mois d'août qu'on avait envoyé la liste à Kinshasa au niveau du secrétariat national, on se rend compte que jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction, les comptes ne sont pas alimentés et les services bancaires menace même de pouvoir fermer tous ces comptes-là, d'autant plus qu'ils ne sont pas alimentés. C'est pour cela que nous demandons à nos autorités, les services concernés, de pouvoir remédier à cette situation et de regarder notre cas, d'autant plus que nous avons aussi des problèmes à régler dans nos foyers. Nous avons des affaires scolarisées et maintenant, il y a la rentrée, on ne sait pas comment faire rentrer les affaires à l'école. On est des locataires. Là, vraiment, on est cuit, on est bloqué, on ne sait pas quoi faire. Alors, nous demandons la bonne foi de nos autorités, surtout qui sont considérés comme nos papas, de pouvoir regarder sur notre situation et de pouvoir régler cette situation.
Contacté, le chef de la division provinciale des mines, Michel Liété, affirme que Kinshasa a promis de donner plus de précisions à ce sujet dès la semaine prochaine. Rendons-nous dans la province de Olomami. La pêche a repris depuis jeudi dans le lac Abamba, territoire de Malimbankoulou. Les hippopotames qui sémaient la terreur dans ce lac ont été refoulés par les éco-gardes venus du parc Upemba. La population salue le refoulement de ces animaux et fréquente à nouveau ce lac pour sa principale activité qui est la pêche. D'autres détails avec Jean Gandou.
Les éco-gardes venus du parc Upemba ont réussi à refouler les hippopotames qui se sont plus d'une fois attaqués aux pêcheurs. Deux personnes ont déjà été tués et d'autres blessés par ces pachydermes. Parmi elles, l'une s'est vue amputer le bras. Et c'est depuis ce jeudi que la population fréquente à nouveau le lac Kabamba, soit pour puiser de l'eau, soit encore pour la pêche. L'hippopotame qui se trouvait sur la terre ferme et qui menaçait tous ceux qui se rendaient au lac Kabamba a été maîtrisé. Les éco-gardes disent avoir utilisé plusieurs techniques pour que les nombreux hippopotames qui avaient envahi le lac Kabamba soient refoulés et l'opération continue. Les pêcheurs saluent l'intervention des éco-gardes qui leur permet de reprendre leur principale activité, que réguler la pêche, surtout que le 1er décembre prochain, il y aura la fermeture de la pêche pour une période de 3 mois. Et c'est pour favoriser la multiplication des espèces. Certains habitants de Malemba voudraient que les éco-gardes qui sont venus pour le refoulement des hippopotames restent encore pour quelques jours. C'est pour intervenir au cas où ces animaux réapparaissaient. D'après Paul Senga, le député provincial élu de Malemba-Koulou, les autorités locales ont fait parvenir cette proposition aux responsables de l'ICCN qui n'y ont pas trouvé d'inconvénient. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité, Afrique Monde.
Nous sommes au Mali. 6 personnalités maliennes ont été placées sous mandat de dépôt cette semaine. Information confirmée hier par la justice malienne. Toutes sont accusées notamment de tentatives de coup d'État et de complot contre le gouvernement. Parmi elles, un ancien secrétaire général de la présidence et un ancien chef de la sécurité d'État, les services maliens de renseignement qui avaient disparu depuis plusieurs semaines. Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont encore progressé vigoureusement en octobre, selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, à tel point qu'ils atteignent leur plus haut niveau depuis juillet 2011, le prix du panier de base est en hausse de plus de 31% sur un an.
L'invité.
Il nous vient de la province de la Tchopo. Le gouverneur intérimaire Maurice Abibu Sakapela invite les enseignants à reprendre les cours. C'est ce qui explique la rencontre qu'il a eue jeudi dans son cabinet de travail avec les gestionnaires des établissements d'enseignement primaire, secondaire et professionnel, ainsi que l'intersyndicale des enseignants. Maurice Abibu dit avoir accordé 48 heures à l'intersyndicale pour contacter sa base en vue d'envisager une éventuelle reprise des cours. Ceci serait une mesure conservatoire en attendant la fin des négociations entre le banc syndical et le gouvernement au Congo central. Le gouverneur intérimaire de la Tchopo s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Monsieur le gouverneur, bonjour. Vous venez de rencontrer les gestionnaires des établissements d'enseignement primaire, secondaire et technique et le représentant des enseignants. De quoi a-t-il été question?
Bon, il était question de les persuader à examiner avec une attention soutenue la possibilité de lever la grève dans certaines écoles conventionnées publiques. Et aussi de rester attentif par rapport à la situation ou aux tractations qui se passent aujourd'hui au niveau de qui s'entourent entre le gouvernement et les banques syndicales. Et donc, nous les avons demandé de tenir compte des spécificités propres à la province de la Tchopo qui a un retard aussi croissant dans la formation de la jeunesse et surtout du fait qu'il y a une rentrée scolaire à double vitesse. Il y a certaines écoles publiques qui ont répondu à l'appel du gouvernement depuis le 4 octobre dernier qui étudient. Mais il y en a d'autres qui n'étudient pas. Alors, au cas où il arrivait que le gouvernement et les banques syndicales trouvent un modus vivendi, et il sera donc difficile d'harmoniser les calendriers scolaires. C'est pour cette raison que nous avons réuni tous les partenaires de l'éducation afin qu'ensemble nous puissions examiner la possibilité de la reprise des cours au niveau de certaines écoles qui sont pratiquement en grève aujourd'hui et qui répondent au mot d'ordre de leur syndicat au niveau national.
Vous dites qu'il y a quelques écoles publiques qui étudient dans la province de la Tchopo, à Kisangani. Est-ce qu'on en trouve quelques-unes? Lesquelles, par exemple?
Oui, eh bien, nous avons reçu le rapport de Proved de Tchopo 1 et 2 et ils nous ont affirmé qu'il y a des écoles publiques qui fonctionnent sur toute l'étendue de la province, certaines, mais seulement il y a que les écoles conventionnées qui ne fonctionnent pas. Et donc, c'est une question qu'il faudrait absolument prendre à bras le corps parce que si vous demandez les écoles en question, je crois que les rapports sont disponibles au niveau de Proved et Kisangani 1 et Tchopo 1, Tchopo 2 et qui ont affirmé qu'il y a des écoles publiques, certaines qui sont opérationnelles, qui ont répondu présents aux côtés des écoles privées à l'appel du gouvernement de reprendre le chemin de l'école le 4 octobre dernier. Ici, je souligne, d'après le rapport des gestionnaires de ces écoles, il n'y a que les écoles conventionnées qui posent problème et qui continuent à répondre au mot d'ordre de leur syndicat au niveau national.
Au niveau national, justement, il y a eu le président de l'intersyndicale qui avait demandé aux enseignants de reprendre, puisqu'il y a les pourparlers qui sont en cours, comme vous le disiez tantôt. Mais cet appel n'a pas été entendu. Croyez-vous que votre approche puisse trouver un écho favorable du côté des enseignants?
Oui, après le tour de la table, je crois que j'ai senti qu'il y a une prise de conscience et je crois que nous leur avons donné 48 heures pour qu'ils puissent contacter leur base, pour qu'ils puissent nous dire quelles sont les conclusions. Mais j'ai la ferme conviction et je suis même persuadé que l'attitude de syndicalistes de la province a un peu fléchi et je pense que on pourrait espérer une suite favorable dans les jours à venir.
Est-ce que le gouvernement provincial est prêt aujourd'hui à consentir une petite motivation en faveur de ces enseignants pour les encourager, par exemple, à reprendre leur travail?
Non, on n'a pas abordé les problèmes dans ce sens-là et je crois que la contribution du gouvernement provincial sur cette question, c'est lever de la conscience, c'est pratiquement l'amour de la province qui doit animer ces enseignants parce que le gouvernement a déjà fait l'essentiel et nous pensons que au terme des négociations, cette question de prise en charge pourra trouver solution.
Monsieur le gouverneur, merci.
Merci Jacques.
Voilà, c'était là notre invité, le gouverneur intérimaire de la province de la Tchopo. Maurice Abibou Sakapela était avec Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis.